Bienvenue à cette dernière heure du marathon des sans-abri. On y parlera de criminalisation de la pauvreté. Bonjour, Véronique Leduc, militante à Stella.
Bonjour.
Alors, peut-être notre premier tour de table pour présenter ton rapport à la criminalisation de la pauvreté. En quoi ton militantisme à Stella te lie à ce sujet?
En fait, je dirais qu'il y a peut-être deux liens. Ben, d'une part, à Stella, bien entendu, on est dans une posture de condamner la criminalisation du travail du sexe. Évidemment, ce qui, pour moi, a un lien avec la pauvreté dans un certain sens. Le travail du sexe n'est pas toujours relié à la pauvreté malgré les représentations qu'on peut en avoir. Mais oui, dans certains cas, il y a un lien entre la pauvreté et le travail du sexe. Et dans ce cas-là, oui, on peut parler de la nécessité de condamner cette criminalisation-là. Puis dans un autre temps, je dirais que j'ai eu la chance, dans le cadre de ma maîtrise en travail social, de faire une recherche sur le projet Agir par l'imaginaire, qui était un projet d'art communautaire qui avait lieu à Tanguay, à Joliette, l'Institut Philippe Pinel et la maison Thérèse Cassegrain. Donc, de voir en quoi l'art communautaire peut contribuer à donner la parole, dans le fond, aux femmes criminalisées et à, justement, dénoncer cette criminalisation.
Et nous sommes aussi avec Marie Biemans. Donc, Marie, je vais te laisser te présenter en nous faisant un peu le lien avec notre sujet d'aujourd'hui.
Et moi, ça fait presque toute ma vie que je suis impliquée avec des gens qui ont des problèmes avec la loi, l'Office des droits des détenus, avec des projets qui n'existent plus comme telles ressources où on les accueillait. Et j'accueille aussi chez moi, dehors de la ville, juste dehors de la ville, j'ai accueilli des gens qui vivent dans la rue. Et j'ai un fils qui est bipolaire qui a fait aussi la rue.
Donc, quand on parle de criminalisation de la pauvreté, dans le fond, on parle du fait où ce que des actes qui sont associés à la pauvreté ou même le fait d'être pauvre deviennent un crime. Est-ce que vous auriez des exemples concrets de comment cette pauvreté se retrouve à être considérée comme un crime?
Bien, c'est que on vit dans une société qui, c'est l'économie qui marche, on veut que tout soit bel et beau. Et puis, on est devenu très intolérant. Puis, il y aura toujours les gens qui... Il y a à travers l'histoire, des gens qui vivent sur les marges de la société. Des problèmes de santé mentale, ils ne sont pas capables de rentrer dans le moule. Et puis, ils ne fitent pas. La société, les gens sont très intolérants et la police essaie de balayer la rue, les considère un petit peu comme... Pas tous les policiers. Il y en a quelques-uns qui s'intéressent, qui vont prendre, mais beaucoup, beaucoup, en particulier chez les jeunes. Ils les voient un peu comme un vermine qu'il faut se débarrasser. Et c'est pour ça qu'on a donné le ridicule qu'on a vu dans la presse hier de toutes ces milliers de tickets qui sont donnés à des gens qui n'ont pas un sou, qui ne sont pas capables de les payer. Mais la pauvreté, il y a aussi la santé mentale. Il y a les deux facteurs. C'est qu'il y a des ressources qui vont s'adresser à un problème ou à une autre problématique. Mais la plupart des gens ont plus qu'un problématique. Ils ont une problématique, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de place pour aller rester, ils ont des problèmes de santé mentale, ils ont des problèmes avec la loi. Où est-ce que c'est qu'ils vont aller?
Mais... Je trouve toujours intéressant de questionner, en fait, le mot même, la question du crime, dans le fond. Donc, qu'est-ce qu'un crime, quand on parle de la criminalisation de la pauvreté, c'est que on en fait un crime. Donc, mais en fait, quand on regarde ça, un crime, c'est un acte qu'on a jugé socialement comme un crime. Donc, certains actes vont être considérés dans une société comme un dans une telle société comme un crime et dans une autre société pas nécessairement comme un crime. Des fois, je donne l'exemple de l'avortement. Dans un pays, c'est un droit et dans d'autres pays, c'est un crime. Donc, qu'est-ce qui fait que certains actes, certaines personnes vont être criminalisées et non pas d'autres? Je pense que c'est intéressant dans le contexte de la pauvreté de regarder évidemment le contexte néolibéral dans lequel on se trouve et de voir comment ça se fait que tous ces gens-là qui crossent le système, mais en tant que capitalistes de la upper class, ne sont pas ceux qui se retrouvent, bien entendu, en prison, mais les personnes qui, par différents moyens, vont enfreindre les lois parce qu'ils se retrouvent dans des situations de pauvreté ou de précarité, ces personnes-là vont être criminalisées. Donc, pour moi, c'est vraiment symptomatique d'une société néolibérale qui hyper-responsabilise les individus et qui dit, dans le fond, si t'es pauvre, c'est de ta faute. Et si t'enfreins les lois, ben c'est de ta faute et on va te criminaliser. Alors que simultanément, ben il y a des grandes entreprises qui font bien plus des crimes, qui font des meurtres, tu sais, que ça soit dans différents pays. Le Canada est bien entendu complice dans ces histoires-là aussi. Et de cette criminalité-là, ben on en parle pas en termes de criminalité, mais en termes de capitalisme sauvage.
Donc parmi vos expériences, justement, il y a deux choses qu'on observe, c'est qu'est-ce qui est criminalisé, qu'est-ce qui est un crime ou qu'est-ce qui est pas un crime, puis comment ça s'applique à une personne ou à l'autre, parce qu'on peut se demander est-ce que, par exemple, l'exemple des contraventions, est-ce que c'est vrai que toute personne qui se promène dans un parc après 11 heures va se retrouver à recevoir une contravention, et quel est l'effet de cette contravention, et comment tout ça nous mène finalement à l'emprisonnement?
Bien, c'est que si la contravention n'est pas payée, puis la police t'interpelle parce que tu es dans la rue, parce que tu dors dans le métro, ils voient automatiquement, ah, amende pas payée, ils te rentrent en dedans. On te met sur probation, bris de probation, ces gens-là, ils rentrent, ils sortent à Bordeaux. Et puis, à Bordeaux, c'est l'enfer. C'est des gens qui rentrent, puis qui sortent, puis ils rentrent, puis ils sortent. On ne règle jamais les problèmes. Puis si dans les groupes communautaires, on essaye d'avoir de l'aide pour quelqu'un, il est sur une liste d'attente pour voir un psychologue, voir un médecin ou un travailleur social. Quand tu viens, son rendez-vous s'en vient, il est à Bordeaux. C'est que là, il va au fin de bas du liste. Puis ça se répète. Et puis, ce qui se met dans la tête de ces gens-là, c'est comme... Ben, ça fait partie de la routine. Il y a comme un genre de fatalisme.
Mais concernant cette question-là de savoir si tout le monde est criminalisé dans l'espace public, notamment, par exemple, dans les parcs après 11 heures, en fait, à cette question-là, je répondrais que non, c'est pas tout le monde qui est criminalisé après 11 heures. En fait, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur qui est criminalisé dans l'espace public, notamment en vertu de quel usage on fait de l'espace public. Je pense qu'il y a clairement ce qu'on appelle des fois un profilage social, voire même dans certains cas un profilage racial qui est opéré notamment par les forces de l'ordre. Donc, si on traverse le parc parce qu'on rentre de travailler dans un travail dit respectable, avec une tenue soi-disant respectable, peut-être que on ne sera pas interpellé de la même façon que si on utilise le parc ou l'espace public pour y dormir, pour y travailler, pour y consommer des substances jugées illicites par la loi, etc. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre qui est criminalisé et qui ne l'est pas dans l'espace public, en vertu de quel usage on en fait.
Ça y est, fort, je suis fait, j'ai les menottes au poing. Impuissant, c'est le système qui contrôle mon destin. Du coup, mon monde a cessé de tourner. J'ai pas mal au cœur, les yeux cernés, je suis fatigué. Le stress de cette épreuve est en train de me vider. Arraché à moi, un bout de ma vie subtilisée. C'était les risques du métier, j'étais déjà au courant. Sans fermer d'une cage, voilà ce qui m'attend. Qui reste juste la vue des bords, on me donne des frissons. Incroyable de croire que ça va devenir ma maison. Soumise, dirigée vers ma cellule, je m'étais souvent promis que jamais, non jamais, je mettrais les pieds ici. Les autres détenus qui font du bruit, je me sens menacé. Comme des lions affamés, ces gars-là n'ont pas de pitié. Au fond de mon trou, je repassais ma première nuit. Abattu par l'insomnie, je rêve à l'express de minuit. Les secondes sont longues, les minutes paraissent des heures. Le temps semble arrêter, je sens même tout battre mon cœur. Je souffre en silence, supporté par l'envoi.
Je dois craquer,
mais en détourne la sentence, je me sens suffoqué.
Des barreaux, des murs, qui pas de soleil à midi. Ma sortie, samedi, 25 ans sans sursis. Trop de soucis, trop d'audits, on dynagie. Des sous, des coups, une corde autour du cou. Pour l'éternité, errer emmuré. Mourir enfermé, l'esprit enchaîné. Dans le noir, d'isoloir, cauchemar, trop tard. Souffrir de remords pour ceux qui s'en attendent.
connais, c'est le phénomène des portes tournantes, notamment par rapport en lien avec le travail du sexe, pour peut-être donner cet exemple-là de ce qu'on appelle les quadrilatères. Donc, en fait, c'est souvent ce qui cause le phénomène des portes tournantes, c'est en fait le bris de conditions. Donc, le fait, par exemple, que les femmes, sûrement, Marie, que vous avez d'autres exemples aussi de phénomènes de portes tournantes, mais dans le cas des travailleurs du sexe, en fait, on leur impose donc un périmètre entre telle rue, telle rue, telle rue, telle rue. Vous ne pouvez pas vous y retrouver. Or, il s'avère que ce quadrilatère-là est souvent celui où parfois se retrouve le logement, va se retrouver aussi les services de santé, les ressources communautaires, les ressources sociales, enfin bref. Donc, le fait de créer ce périmètre-là, c'est automatiquement de créer un contexte de bris de conditions, c'est-à-dire que les personnes vont retourner dans ce quadrilatère-là pour diverses raisons. Ils vivent, aller chercher des ressources ou y travailler. Donc, ils se trouvent encore en train d'enfreindre la loi. Donc, retournent en prison, ont encore des conditions. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le phénomène des portes tournantes. Une fois qu'on est rentré dans le système judiciaire, c'est beaucoup plus facile d'y retourner. Et très souvent, une des raisons qui fait qu'on y retourne, c'est justement ce bris de conditions qui nous est imposé dans des situations soit de libération conditionnelle ou de probation sous condition, des choses comme ça. Donc,
Puis à Bordeaux, ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas avoir... Il n'y a pas d'aide à Bordeaux. Dans le sens que le temps passé là, en moyenne, c'est moins que 2 mois. Donc, les gens rentrent, ils sortent. T'as pas le temps de vraiment aller régler les problèmes. T'as une vie, des années de consommation, de médicaments, de tout ce que c'est que tu peux mettre tes mains là-dessus. T'as tout ça d'instabilité, t'as pas de lien social. Et puis, tu rentres à Bordeaux, t'es entreposé. Enfin, Bordeaux, c'est tout simplement une place où on neutralise les gens. Le personnel est beaucoup moins formé qu'au fédéral, donc ils sont pas formés pour dealer avec des problèmes sociaux. C'est tout simplement, c'est des gardiens. Ils rentrent, on coupe sur tout. Il y a déjà eu des programmes d'aide qui ont été coupés. Et puis les gens rentrent, ils rentrent, puis c'est épouvantable, le bruit infernal dans cette bâtisse qui est vétuste, l'écho là-dedans. Écoute, si t'as pas de problème de santé mentale avant que tu rentres à Bordeaux, t'en passes 24 heures là, puis tu vas en avoir.
C'est clair. En fait, pour revenir sur la question du rôle des prisons, c'est une question qui est extrêmement complexe, mais bon, comme je pense que la réponse la plus générale, c'est effectivement un dispositif de contrôle social, en fait, qui est, entre autres, pensé dans un mode dissuasif au niveau législatif, de dire, bon, si la prison est là, ça va dissuader les gens de commettre les crimes. Je pense cependant que dans les faits, c'est vraiment, on est dans une logique néolibérale punitive qui punit, dans le fond, comme façon de répondre aux problèmes sociaux qui sont considérés comme tels, notamment par les autorités. Donc, je reviens encore à ce que tu disais tantôt, la perspective néolibérale d'hyper-responsabilisation des individus. Si tu es pauvre, si tu commets tel ou tel acte, c'est de ta faute. Et on n'est pas du tout dans un contexte de responsabilisation collective et de réfléchir comment, dans le fond, agir en amont, c'est-à-dire l'en coûte entre 60 000 et 150 000 $ par année, par personne, au provincial ou au fédéral, pour incarcérer une personne. Si cet argent-là était investi dans différentes initiatives sociales, que ce soit en termes de toxicomanie, que ce soit en termes de ressources de logement, au niveau de l'emploi, au niveau, en tout cas, tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin de faire la liste des ressources qui sont nécessaires et dans lesquelles on pourrait investir, mais à la place de ça, le gouvernement préfère investir dans des mesures répressives et ainsi donner l'illusion à la société qu'on est dans un contexte de sécurité, alors que la sécurité est un concept très flou et qu'on va définir différemment en fonction de qui on est, c'est quoi nos intérêts politico-économiques. Là,
tu sais. Oui, mais quand je dis qu'on a un gouvernement qui est redevable à Bay Street puis aux multinationales, il y a 6 milliards qui vont être investis dans les pénitenciers, mais ce n'est pas en de l'aide, c'est dans du béton puis dans de la construction. Mm-hmm. Puis des services qui aident les gens, ça ne rapporte pas.
Puis sur les sujets des... Oui, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur...
Non, je pense que Marie l'a bien dit, là, il s'agit de ce qu'Angela Davis appelait le complexe industrielo-carcéral.
Exactement. Sur la question des politiques, justement, provinciales et fédérales en matière de crime, on en entend malheureusement beaucoup parler, puisque donc, entre autres, le projet de loi C10, et ce qu'on remarque dans les argumentaires, c'est l'instrumentalisation honteuse, là, j'aurais envie de dire, du discours des familles de victimes de crimes assez horribles, qui sont d'ailleurs généralement des crimes sexistes ou... etc. Et on instrumentalise le discours des familles de victimes et on instrumentalise leur douleur pour justifier que des peines plus fortes de prison empêcheraient ce genre de situation-là. Donc j'aimerais vous amener sur deux terrains ici. Un terrain qui est le fait que qui est en prison en tant que tel? Combien de personnes sont en prison pour des crimes dits violents, là, c'est-à-dire ce qu'on a comme les classiques meurtres, etc.? Et surtout, qu'est-ce que la prison fait face au crime? Est-ce que ça diminue la criminalité ou pas finalement?
Moi, la prison, moi j'ai beaucoup de gens qui sont au pénitencier qui m'ont dit qu'ils ont fait leur primaire comme à Bordeaux. C'est que quand tu rentres dans le système, ce que tu apprends, c'est que tu es dans un milieu criminogène. D'ailleurs, le crime organisé a commencé. On a des prisons comme on les connaît depuis 200 ans, 212 ans, là. Et puis, c'est là que le crime, les gens se mettent dedans. C'est là que les contacts se font. Mais dans les pénitenciers, c'est des longues sentences. Et puis, de plus en plus longues, on ne règle pas le problème là. Mais à Bordeaux, quand on parle des itinérants, c'est Bordeaux. Donc, ce n'est pas des crimes pas mal, mais c'est des choses qui dérangent des gens qui veulent des trottoirs bien propres, qui ne veulent pas voir d'itinérants sur la rue. C'est ça. Il ne faut pas oublier, on a quelqu'un qui a été élu à Ottawa, il ne faut pas oublier que Hitler aussi a été élu. Et moi, j'ai très peur de ce que je vois, le tournant que notre société prend.
Donc, sur cette question des prisons, je pense qu'on s'entendait pas mal tout le monde pour dire que les prisons, c'était pas vraiment une solution à peu près aucun problème. Justement, qu'est-ce qui sont les alternatives qui existent à l'occasion et toutes celles qui n'existent pas, mais qui sont revendiquées, espérées, toutes les tentatives de faire autrement? Est-ce que vous auriez des informations là-dessus?
Bien, je pense que ça prend beaucoup de projets communautaires, des gens qui peuvent rencontrer la personne, les accueillir et les accepter comme ils sont. Ça prend, dans notre société, j'aime pas le mot tolérance, mais d'accepter qu'il peut y avoir quelqu'un qui est différent, de ne pas avoir peur de la personne sur la rue. D'ailleurs, les gens dangereux, ils portent une cravate, ils sont dans des tours.
Mais je trouve ça intéressant, cette idée-là, tu sais, de communauté. En fait, dans des situations où il y a un lien communautaire qui est beaucoup plus fort, il y a quand même beaucoup moins de criminalité ou de criminalisation. Donc, je pense pour moi, en fait, au lieu de parler d'alternative à la prison, parce que le fait de parler d'alternative à la prison, c'est encore de supposer une certaine culpabilité chez les personnes qui sont en route vers la prison, de dire, si elles ont, ces personnes-là sont coupables, comment leur faire payer autrement ce qu'elles ont fait plutôt que de les envoyer en prison. Je pense que ça devrait peut-être changer notre façon de regarder les choses et de dire, c'est quoi les alternatives à la répression plutôt que les alternatives à la prison. Et ce faisant, en parlant d'alternative à la répression, c'est de dire, on enlève la responsabilité uniquement sur l'épaule des individus et on le pense dans une perspective plus macro-sociale, de dire qu'il y a une responsabilité collective et la répression n'est pas une réponse à différentes situations qu'on vit. Et plutôt que d'aller vers une société plus répressive, bien, pourquoi ne pas aller vers une société plus créative et de reconnaître justement la diversité des façons de vivre nos vies, de gagner nos vies et d'être en communauté, d'être en relation les uns avec les autres. Quand on parle des fois de réintégration sociale, je me demande toujours à quoi on fait référence dans la mesure où est-ce qu'il semble y avoir une certaine façon de concevoir le fait d'être intégré, entre guillemets, dans une société? Est-ce que c'est le fait d'avoir un boulot 9 à 5, d'avoir un appartement bien rangé et tout ça? Donc, je pense que le fait de reconnaître la diversité des façons de vivre, de travailler et d'être en société nous permet peut-être, d'être un peu plus ouvert.
Deux ans, moins un jour, mon calvaire est terminé. Incarcéré, j'attaque, les gardes viennent me chercher. Le stress, les crises, fait longtemps que j'en plus la nuit. Insomniaque depuis le premier jour que je suis détenu ici. Y'a plus les crackheads qui rentrent pour purger leur sentence. Quand t'es là depuis longtemps, c'est frustrant. La rage est immense, souvent pour des conneries. Je me suis retrouvé au trou, isolé, poignard, quatre mots. Normal que le monde devienne fou, la correction pour me redresser. Qui reste rassuré, les nerfs habiles, surveillés par la loi du pénitencier. Agressé sans cesse, certains cadres font pour en finir. Des images me hantent, j'ai tout fait pour pas mourir. Partir aujourd'hui, char, quelle heure du cauchemar. Ma famille m'a oublié, mes chums pensent que je suis mort. À mon arrestation, j'avais à peine 19 ans. Insouciant, j'ai scrapé ma vie à cause de manque de jugement. Maintenant, je me retrouve dehors, sauf que j'ai pas plus d'argent. Après toutes ces années, je te jure, j'ai le même comportement. La dernière porte s'ouvre. Ferme claque derrière moi, j'ai appelé du nez ramol, j'espère que j'en reviendrai pas.
Des barreaux, des murs, gris, pas de soleil à midi. Pas de sortie, samedi, 25 ans sans sursis. Trop de sourcils, trop d'audits, odinazis. Des trous, des coups, une corde autour du cou. Pour l'éternité, errer emmuré. Mourir enfermé, l'esprit enchaîné. Dans le noir, d'isoloir, cauchemar, trop tard. Souffrir de remords pour ceux qui s'en entendent.
Y'en a qui rentrent, y'en a qui sortent, y'en a même qui meurent. J'serais menteur, j'suis des fois ça brise pas le cœur, on voit des jeunes dans pleurer, les yeux remplis de terreur. Par peur de se retrouver seul avec des enculés de violeurs. Ici la rage règne comme chez les animaux en cage. Parce qu'il y en a qui savent qu'ils vont jamais tourner la page. La liberté c'est quoi? Je m'en souviens même pas. Mon seul moyen d'être ailleurs c'est de me trouer les bras. Mais t'en fais pas maintenant, inquiète-toi pas pour moi. Par les temps de tâche, c'est 100 fois pire que ça. Parce que la rue comme au bête c'est la loi du plus fort. Dans la jungle y'a pas de place pour les remords. Y'a surtout pas de pitié non plus. Coups sont permis, vivre dans un climat de survie, le jour comme la nuit. À grand coup de pic, on règle les dettes d'argent. À coup de matraque, les scouts font respecter le règlement. Y'a plus de dons visibles que tu peux en trouver des hors. Au point où j'suis rendu, j'm'en crie si ça me fait du tort. Me laisserai jamais sortir. J'suis une menace pour la société, mais ça serait une autre histoire qu'un jour j'vais peut-être vous raconter.
Des barreaux, des murs, gris, pas de soleil.